Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé le Japon et d'autres pays à résister aux efforts américains pour bloquer l'accès de l'Iran à ses fonds étrangers nécessaires pour acheter des médicaments et des denrées alimentaires pour le peuple iranien au milieu de la pandémie de coronavirus. Deux Américains arrêtés par Ansar Allah du Yémen ont été libérés par le mouvement le mercredi 14 octobre en échange de retour au Yémen de plus de 200 combattants d'Ansar Allah qui se trouvaient à Oman. En Somalie, 13 soldats somaliens ont été tués dans l'attaque des Chebabs près de Mogadiscio. C'était les titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé le Japon et d'autres pays à résister aux efforts américains pour bloquer l'accès de l'Iran à ses fonds étrangers nécessaires pour acheter des médicaments et des denrées alimentaires pour le peuple iranien au milieu de la pandémie de coronavirus. Le haut diplomate iranien a déclaré mercredi, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue japonais, que les sanctions américaines illégales interdisant à l'Iran d'utiliser ses fonds dans d'autres pays, dont le Japon, pour acheter des médicaments et des denrées alimentaires pour le peuple iranien constituaient un crime contre l'humanité. Il a appelé le gouvernement japonais et d'autres pays à contrer la décision américaine. La résolution 2031 du Conseil de sécurité approuve un accord nucléaire multilatéral historique de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, connues sous le nom de plan global d'action conjoint. Depuis le retrait de ce plan, les États-Unis ont exercé des pressions sur l'Iran en rétablissant les sanctions qui avaient été levées en vertu de l'accord et en imposant de nouvelles sanctions. Washington a menacé même ses alliés de faire de même en interdisant leur commerce avec l'Iran ou de faire face à des sanctions secondaires. En juin, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, Abdel Nasser Emati, a déclaré que les banques européennes empêchaient l'Iran d'utiliser des milliards de dollars de son argent pétrolier pour acheter des aliments et des médicaments qui, selon les États-Unis, sont exemptés des sanctions. Ailleurs, dans ses remarques, M. Zarif a souligné les développements récents entourant l'accord nucléaire iranien et a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements en vertu de l'accord. Il est très important que nous mettions tout en œuvre pour garantir que les autres parties remplissent leurs obligations et engagements en vertu de cet accord, a-t-il fait remarquer. Deux Américains arrêtés par Ansar Allah ont été libérés par le mouvement yéménite le mercredi 14 octobre en échange du retour au Yémen de plus de 200 combattants d'Ansar Allah qui se trouvaient à Oman. Un avion de l'armée de l'air du Sultanat d'Oman, transportant les deux Américains et le cadavre d'un troisième, a décollé de la capitale yéménite Sanaa quelques heures après avoir ramené les combattants d'Ansar Allah après des années passées à Oman. L'accord a garanti la liberté de Sandra Lolly, que le quotidien Wall Street Journal présente comme une activiste humanitaire américaine qui a été arrêtée par Ansar Allah il y a environ un an, et aussi la libération de Michael Guida, que le journal présente comme un homme d'affaires américain détenu pendant plus d'un an. L'accord prévoyait également le retour des restes de Bilal Fatin, un troisième américain mort au Yémen. Les responsables américains n'ont fourni que des informations limitées sur les trois Américains, mais ont déclaré qu'ils travaillaient de toute urgence pour conclure l'accord, car la santé de Mme Lolly était en déclin. L'accord comprenait également la livraison d'une aide médicale au Yémen. Mohammad Ali Al-Houssi, membre du conseil politique d'Ansar Allah, déclare mercredi que les Américains avaient été détenus pour avoir participé à des activités suspectes au Yémen. Il y a beaucoup d'Américains qui visitent le Yémen et ils y travaillent en toute sécurité. Mais si ce n'était que des citoyens qui n'étaient pas impliqués dans des actes suspects ou des violations de la loi, ils ne seront soumis à rien, a-t-il dit. Après une vingtaine d'années d'occupation, l'armée américaine a évacué sa plus grande base militaire dans le nord d'Afghanistan. Les troupes américaines ont commencé à évacuer leur plus grande base militaire dans le nord d'Afghanistan, d'où les avions de combat US décollaient pour mener différentes opérations. Suite aux récentes déclarations du président américain Donald Trump, des sources concordantes ont rapporté que l'armée américaine avait déjà commencé à évacuer et à détruire des bâtiments dans la plus grande base aérienne US en Afghanistan et à transférer des équipements militaires au Pakistan. Les forces américaines évacuent tous les bâtiments qui se trouvent dans la base aérienne de Bagram et transfèrent les équipements militaires de cette base au Pakistan, a-t-on appris d'un responsable du Sénat afghan. dans le cadre de sa campagne électorale, Donald Trump a promis de retirer le dernier soldat américain de l'Afghanistan d'ici la fin de 2020. Depuis l'invasion américaine en 2001, les agissements terroristes et le trafic des stupéfiants se sont multipliés en Afghanistan. L'occupant américain continue à piller, à voler plus de ressources nationales syriennes d'Al Jazeera, occupées par les troupes américaines vers les bases US en Irak. Des sources locales dans la banlieue de Yarabiya ont déclaré que l'occupation américaine avait fait sortir un convoi de 58 camions citernes et des camions accompagnés de voitures 4x4 appartenant au FTS pour protéger le convoi. Les sources ont souligné que le convoi américain avait traversé les frontières syriennes vers les territoires irakiens via le poste illégal d'Al-Walid. À Ramishli, les habitants de la ville ont organisé un sit-in de protestation pour réclamer l'expulsion des deux occupations américaines et turques des territoires syriens et pour condamner les mesures économiques coercitives unilatérales imposées au peuple syrien. Les participants au sit-in ont hissé des pancartes condamnant les deux occupants américains et turcs et réclamant leur expulsion de la région syrienne d'Al Jazeera. Les participants ont affirmé qu'ils se tiennent aux côtés de l'armée syrienne pour éradiquer le terrorisme. Un certain nombre de participants ont affirmé à l'agence de presse officielle syrienne Sana qu'ils rejettent les deux occupants américains et turcs qui menacent la sécurité des citoyens syriens, ajoutant qu'ils organisent ce sit-in pour affirmer au monde entier leur rejet de toute forme d'occupation et pour dénoncer l'imposition de l'embargo injuste aux Syriens. Et ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. En Somalie, 13 soldats ont été tués dans l'attaque menée par les Chebabs près du district d'Afgoy, au nord-ouest de la capitale. Mogadiscio a déclaré un responsable militaire, tandis que le groupe lié à Al-Qaïda affirme avoir tué 24 soldats. « Nous avons tué 4 terroristes et pourchassé Chebab », a déclaré le major Mohamed Ali. Mercredi soir, la plupart des militaires sont revenus et nous y avons laissé des douzaines de soldats. Puis ce soir, le groupe terroriste a attaqué nos quelques soldats et en a tué 13. Le groupe armé lié à Al-Qaïda, qui lance des attaques régulières dans le but de saper le gouvernement central de la Somalie, a revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière, disant « Nous avons tué 24 soldats et les autres se sont échappés et se sont enfuis », a déclaré Abdiassis Abu Moussab, le porte-parole des opérations militaires du groupe Chebab. Le président gabonais a inauguré mercredi une usine d'assemblage de tracteurs agricoles financée par les Émirats arabes unis dans la zone économique spéciale de Luanda. Cette usine d'assemblage aura une capacité de production annuelle de 3000 unités, selon un accord d'investissement d'une valeur de 65 millions de dollars américains passé entre les Émirats arabes unis et l'Angola. L'usine, la première du genre en Angola, est entrée en activité au premier semestre 2020. Elle emploie plus de 80% de main-d'œuvre angolaise. Selon le secrétaire d'État à l'industrie de l'Angola, le pays a dépensé plus de 3 millions de dollars pour importer des tracteurs de 2017 à 2020. Et pour fermer le journal, le gouvernement du Bénin s'est doté d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables, couvrant la période allant de 2020 à 2030 en vue de faciliter un accès plus rapide des populations aux services énergétiques modernes, selon un communiqué gouvernemental publié mercredi 14 octobre à Cotonou. Ce document de politique nationale de développement des énergies renouvelables, approuvé par le gouvernement, vise, entre autres, à élaborer une approche systématique du cadre de gestion et à garantir une exploitation et un développement durable de ces ressources naturelles, précise le communiqué. La promotion de l'immense potentiel dont dispose le Bénin s'agissant de ce type d'énergie appelle la mise en place d'une politique de développement de sous-secteur avec des mesures incitatives au plan institutionnel, réglementaire, technique, économique et organisationnel, indique la même source. Selon le communiqué, il est indispensable de définir un cadre stratégique devant servir de base pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des objets et programmes du domaine des énergies renouvelables, surtout au profit des zones rurales. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël-Hezbollah, la riposte imminente. C'est le titre du commentaire politique. Ce méga coup de bluff de l'ex-phalangiste Samir Djaja, comme quoi ses 15 000 mercenaires sont prêts à en découdre avec un Hezbollah, est bien symptomatique, non pas du supposé état de faiblesse dans lequel l'intéressé, connu pour ses crimes de guerre commis pour le compte de l'occupation israélienne à l'encontre des Palestiniens du Liban, place la résistance et dont il se félicite au point même d'en remercier l'Amérique, mais bien du lamentable état où patauge l'armée sioniste. Il y a deux jours, une mutinerie de soldats a éclaté en pleine base aérienne stratégique de Har Keren, située dans le désert de Negev. Base qui, soit dit en passant, abrite une station de radar US et des batteries de missiles TAD, soit de quoi protéger l'entité contre des possibles missiles de moyenne et de longue portée attirés par Téhéran. Selon le journal israélien Yediot Aharonot, deux groupes de militaires qui se sont accrochés à coups de mitraillettes et de fusils appartenaient respectivement au bataillon bédouin de reconnaissance et à la brigade Givati, une brigade de l'armée et de terre à l'appui de quoi Israël menace régulièrement Gaza et dit vouloir l'annexer une fois l'annexion de la Cisjordanie achevée. Que les soldats d'Israël en viennent à se tirer dessous pour une bouchée de pain, si on en croit la version sioniste, cela prouve la tension, le désintérêt, la détestation mutuelle, bref, la profonde division qui règne au sein de l'armée israélienne, une structure squelettique qui, depuis le 21 juillet, date à laquelle un combattant du Hezbollah a été tué dans un raid aux missiles israéliens contre le sud du Damas, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Djaja ne veut sans doute pas le voir, mais cette mort que Nasrallah a promis de venger, ne serait-ce que pour ancrer dans le marbre l'équation de force qui consiste à venger le sang par le sang, a mis définitivement fin à l'une des plus farouches démonstrations de force israélienne en Syrie, baptisée « guerre dans la guerre ». Depuis le dernier raid israélien au mois d'août contre la Syrie, raid lancé par crainte de la destination made in Iran syrienne, non pas comme toujours depuis le sud du Liban, mais depuis la zone protégée d'Al-Tanf que l'Amérique occupe dans la province d'Homs, juste sur les frontières avec l'Irak, c'est le silence radio côté d'Israël. Pas de raid, pas de frappe, que du bruit pour rien. Il en est ainsi des explosions entendues mardi 1er octobre en provenance de Sheba, ferme occupée du sud du Liban, explosions liées aux manœuvres militaires de pacotille que l'armée de l'entité israélienne mène régulièrement sur les frontières avec le Liban, histoire de dire qu'elle existe encore, que ses soldats ne se cachent pas, que ses drones et avions marchent et que son renseignement militaire est en bonne santé. Parallèlement, Reuters s'est mis à colporter toujours mardi que l'armée israélienne se préparait à une possible invasion éventuelle du Liban en envoyant à Chypre des hélicoptères avec des militaires israéliens à bord. L'info a été diffusée sans que Reuters soit capable de dire pourquoi la guerre devrait-elle commencer à Chypre puisque l'entité sioniste se trouve limitrophe du sud du Liban. Un Liban qui, depuis le 4 août, se trouve d'ailleurs presque encerclé par les unités aéronavales de l'OTAN. Ce paradoxe Reuters n'y revient évidemment pas, préférant lier l'info aux négociations gazières indirectes qu'Israël et les États-Unis font tous ces jours-ci pour faire passer pour une tentative de normalisation. S'agit-il d'une manœuvre de diversion visant à changer la donne, à savoir à pousser le Hezbollah à renoncer à sa riposte anti-Israël ou à composer d'une manière ou d'une autre avec le statu quo? Possible, mais même les Israéliens n'y croient pas. Il y a deux jours, le site web Israel Hayom annonçait que les forces israéliennes aux frontières nord de la Palestine occupée continuent à être en état d'alerte, état qui dure depuis plus de 80 jours et ce par crainte de la riposte du Hezbollah et que même annonce des négociations gazières n'a rien aidé à mettre fin à cet état d'angoisse permanente. Le journal ajoute qu'Israël surveille craintivement le moindre mouvement sur les frontières avec le Liban et que ses effectifs et que ses effectifs guettent toujours, 3 mois après la mort de Kamel Mohsen, les tirs des snipers de la résistance. Mais il y a pire. La simultanéité que le front nord et sud s'ouvrent en même temps. Alors qu'à Washington et à Tel Aviv, on continue à vanter la normalisation, à espérer y inclure le Liban, le Hezbollah vient de sortir une carte inattendue et dire que la délégation négociatrice n'a pas son feu vert puisque composée non pas de militaires mais des civils. C'est un signe avant-coureur. Cela veut dire que la riposte n'est non seulement retardée, mais elle pourrait même imminente. Et dire que l'armée israélienne craint que le front sud ne s'embrase à tout moment. Et le journal de poursuivre. Un commandant de l'armée israélienne du 74e bataillon du corps du sud a confié au site du journal que l'incident qui a éclaté à la base aérienne de Negev, l'une des milieux protégés de tout Israël, puisque en rapport direct avec le déploiement des troupes US, est un réel avertissement. On n'est pas prêt pour la guerre qui semble imminente. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le corps armé ne fonctionne plus comme il faut. Le corps armé ne fonctionne plus comme il faut. Les Israéliens se regardent en chien de faïence et ils ont peur les uns des autres. Eh bien, c'est à l'image de la société sioniste. Jaja et ses 15 000 mercenaires ne sauraient pas être de grand secours.